J'ai dans ma vie plusieurs centres d'intérêt, pardon, mais je m'intéresse en particulier aux documentaires et aux articles qui témoignent de la vie des gens, et en particulier de la vie des gens dans les périodes difficiles de la vie, comme la guerre, la pauvreté, l'injustice, la maladie. Parce que ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que dans ces périodes difficiles de la vie, c'est dans ces conditions-là, dans ces situations très pénibles, que nous sommes obligés, quelque part, de réagir. Nous sommes poussés à réagir par la difficulté de la situation, à réagir en bien ou à réagir en mal. Au travers de l'histoire ancienne, mais aussi au travers de l'histoire récente de l'humanité, il y a une chose qui m'émerveille et qui me frappe. C'est le nombre de personnes qui, dans ces périodes de crise, se sont révélées être des personnes formidablement courageuses et généreuses. Par exemple, au cours des deux dernières guerres mondiales, de jeunes Américains, Canadiens, Australiens se sont portés volontaires, ils n'étaient pas obligés, ils se sont portés volontaires pour venir se battre en Europe, et des dizaines de milliers d'entre eux sont morts. Ils sont morts parce que combattre pour la défense de la liberté, de notre liberté, avait à leurs yeux plus de valeur que leur propre vie. Il n'y a pas longtemps, je lisais un article sur ce que vous savez qui était Christopher Reeves. C'était celui qui faisait Superman. J'ai dit qui était, parce qu'il est mort il n'y a pas très longtemps. Et c'était, à côté de moi, quelqu'un comme ça, enfin, chouette quoi. Puis c'est quelqu'un un jour qui a eu un accident de cheval et qui est devenu tétraplégique. Et sa femme a été vraiment, je trouve, exemplaire. Cette femme, comme bien d'autres, dont par exemple le mari ou a des enfants, un grave accident et connaît un lourd handicap, eh bien, elle a décidé de rester à ses côtés, de l'accompagner dans son handicap, parce que pour elle, apporter de l'amour à ceux qui avaient été leur compagnon, leur enfant, avait plus de valeur que leur propre liberté, que leur propre bonheur, parce que c'est vraiment quelque chose de très très lourd. Et c'est dans les situations difficiles, souvent, que se révèle ce qu'il y a au fond de notre cœur. Je connaissais un pompier qui n'était pas franchement quelqu'un que l'on pourrait appeler quelqu'un de bien. Il n'aimait personne d'autre que lui-même. Alors évidemment, il était raciste, misogyne, xénophobe, antisémite, anti-chrétien, enfin il était anti-tout ce qui n'était pas lui. Et pourtant, au cours d'interventions dans des situations difficiles, j'ai vu cet homme risquer sa vie et sa santé pour venir en aide à ces mêmes personnes qu'il méprisait dans la vie de tous les jours. En intervention et confronté à des situations douloureuses, c'est comme si ses yeux s'ouvraient et qu'il voyait la valeur de ces personnes en détresse. En temps ordinaire, ces hommes ou ces femmes seraient probablement restés des gens ordinaires, mais au travers d'une situation difficile, ces hommes et ces femmes se sont révélés être en réalité des personnes remarquables. Des personnes qui se sont engagées, des personnes qui se sont même sacrifiées pour une cause qui avait à leurs yeux plus de valeur que leur propre vie. Et l'histoire de l'humanité nous montre que de tout temps, des hommes ou des femmes se sont engagés, se sont sacrifiés pour un juste combat, pour une noble cause. Je pense que nous sommes capables de faire cela parce que nous avons été créés en image de Dieu. Et que s'engager dans un grand combat, se donner pour une noble et juste cause, fait partie de la nature de Dieu. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Parce que nous sommes des pécheurs, nous étions condamnés à la mort éternelle. Mais Dieu nous a aimés, Dieu a quitté sa gloire céleste pour venir nous sauver. Il s'est humilié, il s'est donné, il s'est sacrifié pour nous, parce que aimer et se donner fait partie de sa nature. Et nous-mêmes, nous avons été créés en son image. Alors, malheureusement, le péché est venu recouvrir, étouffer cette image de Dieu, mais il n'est pas parvenu à la supprimer. Parce que nous avons été créés en image de Dieu, nous avons en nous une aspiration, un rêve de nous engager dans un juste combat en faveur d'une noble cause. Nous rêvons tous plus ou moins d'être un Nelson Mandela, Martin Luther King, Mère Teresa. Et si je suis chrétien et né de nouveau, plus l'Esprit de Dieu qui vit en moi restaurera mon cœur, plus mon aspiration à m'engager dans un noble combat et pour une juste cause se fera sentir. Bien plus que cela, puisque ça fait partie de ma nature, c'est même au travers de cet engagement que je vais vraiment m'épanouir, que je vais véritablement grandir, que je vais être fortifié, parce que cela va permettre à ma véritable nature, à ma nouvelle nature, de se développer. Notre méditation de ce matin s'appuiera sur le livre de Job. Je vous invite déjà à ouvrir votre Bible au premier chapitre de Job. Alors, dans le livre de Job, il est question d'un combat. Du plus grand de tous les combats, le combat qui oppose Dieu et Satan. Et ce que montre le livre de Job et qui sera l'objet de notre méditation de ce matin, c'est que le combat qui oppose Dieu et Satan passe par nous, les enfants de Dieu. Le thème de notre méditation de ce matin est celui-ci. Je suis engagé dans le plus grand des combats, et l'objet de ce combat est rester attaché à Dieu, quoi qu'il arrive. Je suis engagé dans le plus grand des combats, rester attaché à Dieu, quoi qu'il arrive. Et nous lirons donc dans Job, au premier chapitre, je commencerai ma lecture au verset 6. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Nous allons sauter un petit peu, mais dans les versets qui suivent, nous voyons que de grands malheurs frappent Job. Et le pauvre Job, en quelques minutes à peine, apprend qu'en raison de deux attaques armées et en raison de deux catastrophes naturelles, il vient de perdre ses 10 enfants. Ses 10 enfants viennent de mourir. La plupart de ses serviteurs sont également morts. Et l'intégralité de ses nombreux troupeaux ont été enlevés, capturés. Ensuite, nous reprenons notre lecture au chapitre 2, au verset 1. Un autre jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. » Satan répondit à l'Éternel, « Peau contre peau, tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Le voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. » Satan se retira alors de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère purulent, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur de la cendre. Sa femme lui dit, « Tu persévères dans ton intégrité. Maudis donc Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu, et nous n'accepterions pas aussi le mal ?» Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Nous arrêtons notre lecture ici. Dans le monde invisible, il y a un combat entre Dieu et Satan. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint au milieu d'eux. Alors c'est une étrange situation, hein. Ici on voit que Dieu parle à Satan. Donc c'est une des questions que peut soulever le livre de Job. Où, comment cela se passe, on ne sait pas. Mais ce que l'auteur de ce livre désire, c'est que nous comprenions que tout cela se passe devant l'Éternel. Au-delà du monde visible que nous pouvons percevoir en tant qu'être humain, dans le monde invisible, devant l'Éternel, se livre le plus grand des combats. Dieu contre Satan. Car il s'agit bien d'un combat. Un combat qui oppose Satan à Dieu dès le commencement de l'humanité. Le projet de Dieu pour nous était que nous vivions éternellement en sa présence, en communion avec lui. Mais dès le commencement, Satan a cherché à nous séparer de Dieu. Et il y est parvenu. Dès le jardin d'Éden, le paradis terrestre, Satan est parvenu à nous détacher de Dieu par le péché, ce qui a fait de nous les ennemis de Dieu. Mais le projet initial de Dieu pour nous reste toujours valable. Et Dieu a envoyé son Fils nous chercher, nous ramener auprès de lui. Jésus est venu nous chercher, il est venu nous sauver afin que nous soyons enfin unis à lui, réconciliés à nouveau et en communion avec Dieu. Mais Satan continue lui aussi en sa lutte de nous séparer de Dieu. Et ce combat durera, ce combat durera jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à ce que Satan soit désarmé, jusqu'il soit condamné pour toujours. Mais en attendant, ce combat continue. Et ce combat ne se déroule pas seulement dans le monde invisible, mais bien dans le monde visible, et en particulier dans le nôtre, dans nos vies. Dieu et Satan s'affrontent au travers de Job, et l'enjeu du combat, c'est l'attachement de Job à Dieu. Job est-il réellement attaché à Dieu? Car c'est ça l'enjeu du combat, l'attachement de Job à Dieu. De son côté, Dieu voit Job comme étant un serviteur qui lui est attaché. En 1:8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Alors Satan, lui, bien évidemment, ne porte pas sur Job le même regard. Satan ne peut concevoir que Job soit réellement attaché à Dieu. Au contraire, Job est même certain que Job s'éloignera de Dieu, qu'il le rejettera et même qu'il le maudira. Verset 11. Je suis sûr qu'il te maudira en face. C'est donc autour de la réalité de l'attachement de Job à Dieu que se focalise le combat. Et ce qui est étrange, c'est que si ce combat a lieu, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui l'a voulu. C'est Dieu lui-même qui attire l'attention de Satan sur Job en louant devant Satan les vertus de Job. Au verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur ?» C'est parce que l'attention de Satan a été attirée sur Job que Satan a voulu s'en prendre à Job. Si Job était passé inaperçu, Satan ne se serait pas déchaîné contre lui. Il venait de parcourir toute la terre, il n'avait rien vu. C'est Dieu lui-même qui attire l'attention de Satan sur Job. C'est Dieu qui a attiré l'attention de Satan sur Job une première fois, et il lui est arrivé bien des malheurs. Et comme si cela ne suffisait pas, après tous les malheurs que Job a connus, Dieu recommence, Dieu attire une nouvelle fois l'attention de Satan sur Job, en 2-3. Non seulement Dieu attire une nouvelle fois l'attention de Satan sur Job, mais en plus, Dieu provoque même Satan en soulignant l'échec de ses précédentes attaques. Il persévère dans son intégrité, et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. Dieu, qui est un Dieu d'amour et de sagesse, implique, expose même Job dans son combat contre Dieu. C'est Dieu qui fait cela. Dieu a exposé Job en première ligne, mais nous aussi, nous sommes placés par Dieu en première ligne du combat qu'il mène contre Satan. Ce sera notre premier point. Je suis en première ligne du plus grand des combats, celui que Dieu mène contre Satan. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes exposés en première ligne du combat que Dieu mène contre Satan. Ouvertement, aux yeux du monde visible, mais aussi aux yeux du monde invisible, nous sommes appelés enfants de Dieu. Dieu revendique sur nous sa paternité. Il n'en a pas honte, mais au contraire, il l'affirme haut et fort. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous nous retrouvons baignés de lumière dans ce monde de ténèbres, exposés en première ligne, exposés dans la ligne de mire de Satan. Et cela ne doit pas nous surprendre, car lorsque nous avons accepté Jésus comme notre sauveur, en acceptant qu'il meure à notre place pour notre péché, nous avons aussi accepté de mourir à nous-mêmes, afin que Christ vive en nous. En acceptant Jésus comme le Seigneur de notre vie, nous avons aussi accepté de devenir ses serviteurs. Or, notre Sauveur, notre Seigneur, est engagé dans le plus grand et le plus juste des combats, le combat contre le mal. Parce que nous avons accepté de devenir enfants de Dieu, notre Dieu nous expose lui-même en première ligne du combat qu'il mène contre Satan. Nous sommes engagés dans le plus grand des combats, mais avec le meilleur chef d'armée qui soit. C'est un peu comme si au travers de notre vie, au travers de notre combat, nous écrivons une page de l'histoire. Pas de l'histoire simplement humaine, mais de l'histoire éternelle. Parce que notre implication dans notre combat aura des répercussions éternelles. Moi, personnellement, je trouve ça formidable. Mais quelle est donc la nature de ce combat? Ce sera notre second point. Le grand combat que je dois gagner, c'est celui de demeurer attaché à Dieu, quoi qu'il arrive. Satan pense que Job ne s'est pas attaché à Dieu de manière désintéressée. En 1.9, Satan dit « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu ?» La pensée que l'on puisse s'attacher à Dieu par amour est inconcevable pour Satan. Satan ne pense qu'à lui-même et est convaincu que Job est attaché, enfin que si Job est attaché à Dieu, c'est forcément par intérêt personnel. Comment pourrait-il concevoir autre chose ? Il pense que si Job est attaché à Dieu, c'est forcément parce que Dieu l'a béni. Verset 10. Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Voilà pourquoi Job est attaché à Dieu. Et Satan, en s'imaginant ou voulant que les hommes fonctionnent comme lui, arrive donc à la conclusion logique que si jamais Job est privé de ses bénédictions, alors il se détachera de Dieu. Et il en est tellement convaincu qu'il met Dieu au défi d'enlever ses bénédictions à Job, parce que si jamais il le fait, alors Job maudira Dieu. Alors Dieu apparaîtra comme un menteur, comme quelqu'un qui s'est trompé. Verset 11. Porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Satan défie Dieu, et Dieu relève le défi. Dieu permet à Satan de priver Job de ses bénédictions matérielles. Dieu, toutefois, ne permet pas à Satan de s'en prendre à la santé ou à la vie de Job. Verset 12. Tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Dieu permet donc à Satan de priver Job de toutes les bénédictions qu'il lui avait accordées. Et la véritable nature de l'attachement de Job à Dieu apparaît alors au grand jour. Job 1, 21. C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans tout cela, Job ne pécha pas. Il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Et au travers de l'attachement de Job à Dieu, Dieu est glorifié. Job, son serviteur, est attaché à lui par amour, pas à cause des bénédictions dont il bénéficiait. Satan, lui, est humilié. Il s'est manifestement trompé sur ce qui motivait l'attachement de Job à Dieu. Mais il persiste dans son entêtement. Forcément, ça doit être quand même par intérêt personnel que Job est attaché à Dieu. Alors, il a une idée. Si jamais Job perd sa santé, alors cette fois-ci, il se détournera de Dieu. Parce que quand on perd la santé, on perd goût à la vie. Et Satan défie donc Dieu une nouvelle fois, que Job perde sa santé, et cette fois-ci, il maudira Dieu. En 2-4. Peau contre peau, tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Et Dieu, une nouvelle fois, relève le défi, il accepte le combat. Dieu permet à Satan de priver Job de sa santé, mais pas de lui ôter la vie. Et c'est par beaucoup de souffrances physiques que Job passe. Le voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Satan se retire alors de la présence de l'Éternel, puis il frappe à Job d'un ulcère purulent. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne, Job prit un tesson pour se gratter, et s'assit dans la cendre. Cette souffrance de Job devait vraiment être intolérable. Ses démangeaisons étaient tellement fortes qu'il devait prendre un tesson pour essayer de se soulager. Alors moi, personnellement, cette image me parle beaucoup parce que lorsque j'étais militaire, j'ai attrapé une maladie, une sorte de maladie de peau, et j'étais très mal pris en charge. Et les démangeaisons étaient tellement fortes que je réalisais que si jamais je me grattais, je veux dire, des tessons de bouteille m'auraient bien convenu, que j'allais certainement finir couvert de cicatrices. Alors ce que j'avais fait, c'est que j'avais une écharpe dans mes affaires, que j'avais noué un poignet, noué à l'autre, et sur mon lit, j'avais passé ensuite ma jambe par-dessus cette écharpe, ce qui fait donc c'est comme si j'étais moi-même lié. Mais, donc, quelque part, ça m'a préservé d'un certain nombre de cicatrices. Mais c'était à devenir fou. Je veux dire, vous ne pensez à rien d'autre. Plus rien ne compte. Vous aimeriez mieux mourir sur votre lit plutôt que d'envisager que les choses puissent continuer. Job est frappé dans sa santé, et une nouvelle fois, Dieu se glorifie au travers de l'attitude de Job. Job reste attaché à son Dieu, bien qu'il ait perdu tout ce qu'il possédait, bien qu'il ait perdu la santé. En 2:10, nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. Job ne pécha pas par ses lèvres. Le lien qui relie Job à Dieu n'est pas un lien motivé par l'amour personnel, par l'intérêt personnel, pardon. C'est bien autre chose, quelque chose de mystérieux, un lien d'amour, un lien en tout cas tellement fort que Satan ne peut même pas concevoir que ce lien existe. Parce que des fois, c'est ça qui nous lie à Dieu. Bien sûr, nous préférerions que Dieu nous bénisse, mais notre attachement à Dieu dépasse ce qui est simplement de l'ordre du rationnel. Une nouvelle fois, Satan est humilié, sa conception du monde, sa conception de la façon dont Dieu s'attache ses serviteurs est manifestement fausse. Dieu, en revanche, est glorifié. Il est glorifié par le fait que Job demeure attaché à son Dieu. Nous arrêterons ici notre méditation, mais nous la reprendrons la semaine prochaine et nous nous intéresserons davantage à des aspects pratiques. En particulier, nous regarderons de quelle manière se manifeste notre attachement à Dieu et aussi pourquoi nous devons, mais aussi comment nous pouvons demeurer attachés à Dieu. En attendant, soyons conscients que je suis engagé dans le plus grand des combats, rester attaché à Dieu, quoi qu'il arrive. Je suis en première ligne du plus grand des combats, celui que Dieu mène contre Satan. Et le grand combat que je dois gagner, c'est celui de demeurer attaché à Christ, quoi qu'il arrive. Je t'invite à quelques instants de méditation et à la suite de cela, je prierai. Seigneur Dieu vivant, dans notre combat initial, de nous attacher à toi, nous avions perdu la bataille. Nous avions cédé au péché et nous étions condamnés à jamais. Nous allons recevoir ce que nous méritions, notre désir de rébellion, d'indépendance, notre rejet de toi. Mais toi, dans ta grâce, Seigneur, tu es venu. Tu ne t'es pas arrêté à notre refus initial de marcher avec toi. Tu es venu, tu t'es donné, tu t'es manifesté à nous, tu nous as fait connaître ton amour. Et tu t'es donné, Seigneur, à tous ceux, pour tous ceux qui croient en toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous as ainsi rétablis. Et ce dont nous voulons nous souvenir, Seigneur, c'est que si nous avons la vie éternelle, c'est parce que nous avions accepté, Seigneur, que tu vives en nous. Et Seigneur, merci parce que ce grand combat que tu mènes depuis toujours, nous avons pu déjà en bénéficier. Mais Seigneur, ce que nous voulons, c'est continuer à te glorifier, à t'honorer, à être tes serviteurs là où tu nous placeras. Seigneur, notre combat n'est pas facile, mais nous pouvons compter sur toi. Seigneur, que notre vie tout entière puisse être à ta gloire. Et merci Seigneur, car nous avons une espérance. Nous savons que tu reviendras. Nous savons que la vie éternelle que tu nous as accordée est une vie de victoire, de délivrance, une vie en communion parfaite. D'ici là, Seigneur, nous faisons appel à toi. Et nous conduire, nous aider, nous soutenir pour que, au cours de cette semaine, nous puissions, Seigneur, vraiment nous laisser accompagner par toi, mais que nous puissions aussi, Seigneur, être vigilants, que nous puissions, Seigneur, chercher à t'honorer, te glorifier dans tous les aspects de notre vie. Et merci, Seigneur, parce que le combat dans lequel tu nous as engagés, la cause que tu nous appelles à défendre, sont le plus grand des combats et la plus juste des causes. C'est notre privilège, Seigneur, de pouvoir te servir toi plutôt que tout autre maître. Gloire te soit rendue. Amen.